Connaissez-vous le testing? Oui, c'est de l'anglais, mais vous pouvez vérifier, c'est dans le Larousse, et en français, ça se traduit par examen. Le testing, c'est quand on examine les pratiques de recrutement des entreprises pour voir s'il n'y a pas des discriminations au moment de l'embauche. Et désolé de casser l'ambiance d'entrée, mais en France, on n'est pas tous égaux devant les employeurs. En 2024, les discriminations se cachent désormais derrière notre CV. Car avoir un prénom à consonance maghrébine ne fait pas de vous le futur employé du mois, au contraire. Pourtant, les entreprises sont formelles en cas de refus, le candidat manque de qualification ou d'expérience, raté. En réalité, c'est bien la couleur de peau, l'origine ethnique ou même le lieu de résidence qui entraîne le rejet de telle ou telle candidature. Alors forcément, on essaye de trouver des solutions. Le testing en est une. Le 12 mars prochain, le député Marc Ferracci défendra au Sénat une proposition de loi pour créer un service gouvernemental dédié au testing et à la statistique. Mais vous vous en doutez, tout n'est pas noir ou blanc. Je vous emmène donc aujourd'hui visiter le monde peu reluisant des discriminations à l'embauche.
Vous écoutez OPAC, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Merci patron, un épisode signé Thomas Bonnet.
Nous sommes au début du mois de janvier 2020. La France fait son petit bonhomme de chemin, la nouvelle année est là, la vie est belle en somme. Il y a bien cette petite grippe qui sévit en Chine, mais c'est loin, la Chine, et apparemment il n'y a aucun risque. Non. Dans cette France de 2020, une étude fait beaucoup parler d'elle. Le gouvernement a demandé à des chercheurs de l'université Paris-Est Créteil, l'UPEC, de tester une centaine d'entreprises françaises sur leurs pratiques d'embauche. Le résultat est sans appel. Peut-être pensons-nous naïvement que le racisme est cantonné au siècle dernier ou à l'extrême droite. Pourtant, il reste toujours présent dans notre pays, à peine caché derrière un entretien d'embauche. Il faut dire que les chercheurs de l'UPEC ont quand même sorti quelque chose de gros. Les résultats sont même carrément éloquents. Sur les 103 entreprises testées, entre 5 et 15 ont des pratiques clairement discriminantes. Il apparaît même que porter un prénom d'origine maghrébine réduit de 25% vos chances de décrocher l'emploi que vous visez. Pour obtenir ces chiffres, l'UPEC a procédé à ce que l'on appelle du testing. Pendant 2 ans, entre 2018 et 2019, les chercheurs ont envoyé aux entreprises des CV en tous points identiques, à un détail près. À chaque fois, un critère précis est testé. Ça peut être le lieu de résidence ou le nom. Vous avez donc d'un côté une personne dont le prénom laisse à penser qu'il est d'origine européenne et de l'autre, un candidat dont le nom laisse entrevoir une origine du Maghreb ou de l'Afrique. Alors aujourd'hui, le testing c'est presque une formalité, mais mettre à l'épreuve les entreprises sur leurs pratiques de recrutement, ça remonte au siècle dernier et je vous le donne en mille, c'est une invention française. Nous sommes en 1939, en Guadeloupe. Deux étudiants décident d'aller faire la fête et se présentent à l'entrée d'un dancing. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est le nom que l'on donne aux boîtes de nuit à l'époque. Malheureusement, nos deux fêtards n'entreront pas, ou plutôt, on ne les laissera pas entrer. Persuadés d'être victimes de discrimination raciste, ils demandent à d'autres Antillais de tenter de rentrer dans le dancing. Tous seront refoulés à l'entrée. C'est cette première forme de testing improvisé qui fera école dans quelques décennies. Avant cela, la Seconde Guerre mondiale arrive, les esprits sont concentrés sur la défaite de l'Allemagne nazie, le testing tombe un peu aux oubliettes. Mais la méthode ressurgit chez nos amis américains et britanniques dans les années 70. À l'époque, ils émanent des gouvernements et des cercles de réflexion proches de la décision publique. Aux États-Unis, c'est le républicain Richard Nixon qui occupe la Maison Blanche. Le département de l'habitat et du développement urbain lance des tests. À ce moment-là, le secteur du logement est un petit peu encombré. Alors on envoie des couples candidater pour des logements afin d'évaluer à quel point il est difficile de se loger. Beaucoup ne parviennent pas à trouver la maison ou l'appartement de leurs rêves. En France, c'est l'association SOS Racisme qui utilise la méthode pour la première fois à la fin des années 90 et au début des années 2000. Une affaire en particulier encourage l'association à mener ses tests, c'est l'affaire du Moulin Rouge en 1999. Une mission locale pousse un jeune homme noir à se présenter à un poste de serveur en salle dans la très chic enseigne parisienne. Il n'est pas retenu, stupeur à la mission locale. Le jeune homme a toutes les compétences pour bien faire le job. Les employés mènent donc leur petite enquête et découvrent que le refus du cabaret est clairement discriminatoire. On explique à l'époque qu'une personne noire au service en salle, ça ne se fait pas. Alors forcément, SOS Racisme multiplie les testings, et pas seulement dans les entreprises, à l'entrée des boîtes de nuit aussi.
Quai Paludat, lieu phare de la fête à Bordeaux. Trois couples, un black et un blanc en beurre, vont tester les critères de sélection à l'entrée des boîtes de nuit. Ici, le couple d'origine maghrébine est refoulé. Motif, ce ne sont pas des habitués. La jeune fille européenne en pull rouge à droite n'est pas connue non plus. Elle rentre sans problème. Certains patrons de boîtes de la ville disent clairement les raisons de leur refus à la communauté maghrébine.
C'est vrai que bon, malheureusement, ces jeunes-là posent souvent de graves problèmes. Moi, quelque part, je suis responsable vis-à-vis de ma clientèle de l'ordre dedans. Donc c'est vrai que ces gens-là souvent créent des problèmes, effectivement.
SOS Racisme a alors deux objectifs, accroître la pression médiatique et alerter la justice. Mais encore faut-il que le droit reconnaisse le testing. Et en la matière, l'avancée est, comment dire, progressive. En 2002, un arrêt de la Cour de cassation reconnaît le testing comme moyen de preuve. Malgré cette jurisprudence, il faudra encore attendre 4 années pour voir le testing inscrit dans la loi. Nous sommes alors en 2006, le gouvernement de Dominique de Villepin fait voter la loi Égalité des chances, le texte légalise les vérifications à l'improviste, le testing vient d'entrer dans la loi. Mais quasiment 20 ans plus tard, où en est-on ? Eh bien déjà, SOS Racisme poursuit ses testings à Nice, les boîtes de nuit s'est dépassé, les bénévoles de l'association se penchent désormais sur les plages privées.
Le test fait par SOS Racisme est très simple, un couple d'allure maghrébine veut réserver des matelas au bord de l'eau. On lui répond que les 3 premières rangées sont réservées et donc qu'il n'y a pas de place. On passe ensuite à la deuxième étape.
C'est bon, on y va.
Un autre couple, blanc cette fois, se rend dans la même plage et fait la même demande.
Bonjour. On se demandait aussi si vous aviez encore de la place à votre plage parce que plutôt sable.
Au premier rang, il y a de la place.
Ouais, j'ai 3 au premier rang.
Nous voilà bien. Les testings révèlent donc que les entreprises ne discriminent pas seulement à l'embauche. Figurez-vous qu'en plus de ne pas pouvoir travailler, certaines personnes ne peuvent pas non plus se loger ou se divertir. Alors peut-être qu'à ce moment du podcast, vous vous dites que le testing, c'est LA solution. Eh bien, sachez que nos voisins et amis belges ont eu du mal à se mettre d'accord, à tel point que le testing a fini par disparaître dans les tribunaux en 2007, la justice refusant finalement d'y recourir. Il faudra attendre 2020 et un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles pour que le test de situation soit de nouveau reconnu comme moyen de preuve. Pourtant, le testing continue de nourrir les débats. Les associations jugent ces méthodes de réalisation trop formelles et donc trop restrictives, ce qui a pour conséquence d'affaiblir la qualité du testing. En face, les entreprises crient à l'infiltration, à la délation et même à l'espionnage. Les employeurs affirment ainsi se sentir piégés par un procédé déloyal. En France aussi, on s'interroge sur les discriminations à l'embauche et le testing. Il faut dire que le sujet est souvent sur la table. Les discriminations à l'embauche, c'est un peu comme le 14 juillet, ça revient chaque année. En 2020, l'étude de l'université Paris-Est Créteil. En 2021, un testing d'SOS Racisme révèle que 45% des agences d'intérim franciliennes acceptent de discriminer à la demande potentielle de clients. En 2022, un autre testing, encore une fois d'SOS Racisme, cette fois-ci sur l'accès au logement. La moitié des agences acceptent de pratiquer une sélection discriminatoire des dossiers à la demande des propriétaires. En 2023, le Conseil représentatif des associations noires mène une étude et constate que 31% des personnes noires rencontrent des discriminations au travail. Pause. Là, normalement, vous vous dites « Mais c'est pas interdit par la loi, les discriminations ?» Je vous confirme que si, mais imagine-t-on une entreprise dire devant la justice « Ah bah oui, je discrimine au moment de recruter ?» Pas vraiment. Alors il faut aller chercher la preuve de la discrimination. C'est notamment l'objectif de Marc Ferracci. Il est le député Renaissance de la 6e circonscription des Français de l'étranger. L'élu de la majorité a fait adopter en novembre 2023 une proposition de loi à l'Assemblée nationale.
Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc votant 183, exprimé 183, majorité 92%, 2 contre 81, l'Assemblée nationale a adopté.
Il veut créer un service gouvernemental de testing et de statistiques pour évaluer l'ampleur des discriminations à l'embauche notamment. J'ai passé un coup de fil à Marc Ferracci pour en savoir un peu plus sur son texte et ses objectifs.
Il se trouve que le testing en matière de discrimination, c'est un outil efficace pour identifier les choses, et en particulier pour identifier les entreprises ou les administrations qui discriminent à l'embauche, pour identifier des bailleurs qui discriminent dans l'accès au logement, pour identifier des banques qui discriminent dans l'accès à un crédit bancaire. Vous pouvez agir notamment en pratiquant ce que l'on appelle le name and shame, nommer et faire honte, c'est-à-dire en publiant les résultats et en publiant en particulier le nom des entreprises ou des administrations qui sont en situation de discrimination dans leur processus de recrutement, par exemple. Et le deuxième levier qu'on veut actionner avec cette proposition de loi, c'est multiplier des testings à dimension individuelle. Ici, le principe est toujours le même, c'est d'envoyer une candidature alternative à celle d'une personne réelle. Le testing à portée individuelle, c'est un testing qui, parce qu'il concerne une personne réelle, eh bien, peut mettre en évidence un préjudice. Et à ce titre, il est accepté par la loi, par le code pénal, comme un élément de preuve dans le cadre d'une action en justice pour des raisons de discrimination. Les deux sont très complémentaires parce que le name and shame peut changer les comportements. Le testing individuel, s'il est conclusif, peut aboutir à un véritable droit à la réparation. Ce droit à la réparation, c'est aussi un constat préoccupant que l'on peut faire. Il est aujourd'hui quasiment inexistant. Un chiffre pour illustrer cela, en 2020, il y a eu zéro condamnation pénale en matière de discrimination. En règle générale, l'existence d'une discrimination ne traduit pas une volonté assumée de discriminer. C'est souvent des biais de représentation qui mènent une entreprise ou qui mènent une administration à pratiquer la discrimination à l'embauche. On va considérer, par exemple, que un jeune des quartiers n'a pas les codes pour s'insérer dans un collectif de travail. On va considérer, si on regarde les discriminations liées à l'apparence physique, qu'une personne un peu grosse n'est pas quelqu'un de dynamique et donc ne va pas apporter quoi que ce soit au collectif de travail. Tout ça, évidemment, sont des biais et des représentations qui sont fausses.
Et comment va fonctionner le service que vous voulez créer ?
On va créer un comité des parties prenantes qui sera composé de représentants des personnes morales susceptibles d'être testées. Ça peut être des entreprises, ça peut être des bailleurs, ça peut être tous ceux qui auront vocation à être testés. De représentants syndicaux également, qui sera composé également de personnalités qualifiées qui savent faire des testings et qui ont l'expertise à la fois statistique et juridique pour pratiquer ce genre de méthode. Et ça m'aidera à décider du contenu des testings, non pas évidemment de quelles entreprises ou quelles administrations sont testées, mais de la méthode qu'on appliquera pour éviter que les gens soient dans le déni par rapport aux résultats. Parce que c'est ce qu'on a constaté. On a eu par exemple un testing en 2019 qui a porté sur des entreprises du SBF 120, les grandes entreprises françaises. 7 ont été pointées comme discriminantes sur l'embauche avec le critère des origines, et elles ont très mal réagi parce qu'elles considéraient que la méthodologie du testing n'était pas robuste, et donc elles ont critiqué les résultats. On veut éviter ce genre de choses, et donc on veut que chacun se mette d'accord sur la portée, la validité, la robustesse de la méthodologie du testing. Une fois que certains tests seront positifs, c'est-à-dire une fois que certains acteurs, entreprises ou administrations auront été identifiés comme discriminants, eh bien, ils seront tenus de définir un plan d'action.
Vous avez réellement un moyen de contraindre les entreprises à mettre en place ces plans d'action ?
Si elles ne mettent pas en place ces plans d'action, non seulement les résultats seront publiés, elles seront définitivement identifiées comme des entreprises discriminantes et elles réagissent très mal à cela, mais si elles ne font absolument rien, c'est-à-dire si elles ne mettent en œuvre aucun plan d'action, elles sont aussi passibles d'une amende administrative qui peut atteindre jusqu'à 1% de la masse salariale. Ça peut être des sommes assez conséquentes. Une fois qu'une entreprise aura eu ses résultats publiés, et si d'aventure elle ne prend aucune mesure pour corriger le tir, eh bien, elle sera sujette à des amendes. Et dans le cas d'un deuxième test positif, c'est-à-dire concrètement qu'elle a été prise par la patrouille une fois, mais qu'elle n'a rien fait de substantiel, et si d'aventure on constate qu'elle est toujours en situation de discrimination, là, non seulement le name and shame est automatique, les amendes administratives peuvent être beaucoup plus lourdes et pouvoir atteindre jusqu'à 5% de la masse salariale. Elisabeth Borne, quand elle était première ministre, a fait des annonces lors du comité interministériel des villes. Elle a donné un chiffre, elle a donné comme objectif de faire 500 testings par an, c'est-à-dire de tester 500 entreprises par an. Puis au-delà des entreprises qui seront effectivement testées, on espère que les principes du name and shame et puis la diffusion des bonnes pratiques aussi, de manière positive, feront évoluer les comportements et les méthodes de recrutement d'un plus grand nombre d'entreprises que celles qui seront effectivement testées. L'idée, c'est de crédibiliser la menace. Ensuite, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Est-ce que tout cela permettra de faire effectivement reculer les discriminations? J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Le testing, ça n'est pas la solution miracle. C'est un élément parmi d'autres. C'est un outil parmi d'autres. C'est une arme parmi d'autres pour faire reculer les discriminations. La sensibilisation, la formation sont le prolongement assez naturel de cette pratique. Mais je pense que c'est un outil puissant. Si on est uniquement dans la sanction, en général, ceux qui sont testés positifs affichent une forme de déni et ne modifient pas grand-chose à leur pratique de recrutement et à la fin, les discriminations persistent.
C'était Opaque, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Thomas Bonnet en février 2024. Coordination Thomas Rozek et Céline Aslo. Réalisation Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.